Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Et je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Voilà.
Bonjour.
Commençons avec ces histoires d'armes à feu. Là, il y aurait au moins 2000 armes à feu illégales en circulation à Montréal. Dans la presse, il y a un texte sur les pistolets à plomb qui ressemblent à de vraies armes à feu qui sont très populaires. Mmh. Benoît, on est loin de régler ce problème-là.
Comme le disaient les astronautes, Houston, on a un sacramouille de problèmes. Là, vraiment, je cherche, là, allez lire ça là, dans le journal de Montréal, c'est troublant. Comment c'est interdit d'aller enquêter à quoi assassiner. Réal Fortin du Bloc québécois avait proposé de mettre en place des patrouilles pour intercepter la contrebande. Écoute, jamais, là tu comprends pourquoi ça se fait pas, parce que les policiers vont se faire tuer. Il y a un sentiment d'impunité, on vend des armes à feu, le crime organisé est là-dedans, les mafias irlandaises, arabes, nomme-les, là, on apprend ça aujourd'hui dans le journal. Moi aujourd'hui, j'attends des réactions de deux personnes. Parce que là, on peut demander la fin du monde au provincial. Là, ça relève du fédéral. Alors moi, je veux entendre le prix Nobel, Mark Miller, qui est toujours prêt à nous faire la morale, nous autres au Québec, là, nous autres les racistes, les pas fins, le ministre des Relations couronne autochtone, et aussi Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique. Moi, je veux savoir ce qu'ils vont faire. Je veux le savoir aujourd'hui, là. Pas demain, pas dans un mois, pas un comité. On travaille à penser, à se prendre les mains, à se demander si il y a des gens qui meurent. Il y a un jeune encore qui est mort à Montréal. Ça se tire dessus. Les gens sont inquiets. Et moi, je veux savoir, Miller et le ministre de la Sécurité publique au fédéral, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Mario.
Ouais, c'est assez détaillé quand même l'article, hein, les rôles des mafias, puis des différentes mafias.
L'histoire de l'épicerie aussi, où tu peux en acheter dans le,
ouais, ouais.
Le commerce mais en arrière.
Mais deux grosses livraisons des États-Unis par mois. C'est vieux, je voyais, je sais pas si vous avez vu, le nouveau maire de New York là, a fait une sortie, pas une sortie en règle, c'est commis lui personnellement. Mmh. À sortir les armes des rues. Vous avez tout un mandat dans une ville de New York, mais il y a une stratégie avec des policiers de terrain, des policiers de quartier qui vont aller dans les rues avec comme objectif de sortir toutes les armes à feu. On verra s'ils vont réussir ou pas à New York, mais certainement que le maire a fait une sortie, disons, qui a exprimé une volonté politique et il s'est commis personnellement comme jamais Valérie Plante ne l'a fait, là.
Parce que faut dire aussi, Mario, Philippe Vincent, il y a un policier de 22 ans qui a été abattu. Il y en a un autre de 27 ans qui a été blessé.
À New York, tu parles absolument.
C'est ça, à New York, puis il intervenait. Tu sais, il allait aider une mère qui se faisait attaquer par son propre fils. Puis l'augmentation des fusillades à New York, là, c'est ahurissant, là. C'est extraordinaire. Ça n'a pas arrêté en 2021. Puis effectivement, la mairesse, si, est pas aussi, elle prend pas aussi position de façon aussi forte qu'à New York.
Mais, je veux dire, c'est Benoît a raison, là. Une fois qu'on a parlé de la mairesse de Montréal ne gère pas la frontière. Fait qu'on peut demander à la mairesse de prendre son écope puis d'essayer de vider la chaloupe. Mais
si on colmate pas le trou,
c'est ça. Si on colmate pas le trou, si l'eau continue à rentrer, ça finira jamais, là.
Hey, tu sais, hier, tu parlais de Mario du projet de loi C5, là, abrogation des peines minimales obligatoires, mm-hmm. des PMO. Je suis allé voir ce matin. Je vais juste vous lire le début là pour vous faire rire. Le gouvernement reconnaît qu'il existe un racisme systémique dans le système de justice pénale du Canada. Nous avons entendu les Canadiens, les tribunaux et les experts en justice pénale et nous avons vu les preuves de la représentation disproportionnée des Autochtones ainsi que des Canadiens noirs et des membres des communautés marginalisées, tant comme contrevenants et que victimes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les peines pour ceux qui ont des armes à feu. Là, il y a toute une série de délits qui aujourd'hui n'ont plus, qui n'auraient pas sous ce projet de loi-là, qui n'auraient plus de peine minimale obligatoire.
En même temps, le gouvernement est minoritaire. Fait que techniquement, ça va être dans la balance de l'NPD.
C'est qui va l'appuyer, on n'en doute pas. Là. Moi, cette loi-là, je comprends là, qu'on veuille, mettons, au niveau de la... qu'on pourrait appeler de la justice là élémentaire, des petits crimes, des petits délits, dire ben garde là, il faut avoir une approche, on veut pas là, criminaliser tout le monde, en fait les rendre plus criminels par une première intervention auprès d'un jeune de 18 ans, ça il y a un bout, je peux comprendre là, et qu'on tienne compte que dans des groupes marginalisés la criminalité est une option. Mais quand t'es rendu à de la criminalité par arme à feu là, tu tires sur le monde. Je veux dire, là, ça a plus rapport, là, que tu sois noir, autochtone, blanc. Je veux dire, là, on est rendu à des crimes beaucoup trop graves pour commencer à dire, ah ben là, c'est plus une intervention sociale, là. C'est une intervention criminelle, puis elle peut pas, elle doit être sans nuance. Cette loi-là, c'est vraiment, mais tu sais, c'est ahurissant que pendant qu'on parle d'armes à feu à Montréal, tu dis, le seul projet de loi, la seule action du gouvernement fédéral, présentement, qui est en cours, c'est une réduction des peines, c'est de rendre ce crime moins grave. C'est ça qui est à l'étude présentement. Aujourd'hui, là, à Ottawa, ce qui est à l'étude devant le Parlement, c'est ça.
Ouais. Et alors que dès que tu mets la main sur une arme à feu, puis même dans la presse, là, il y a un grand dossier sur les fusils à plomb, les pistolets à plomb. Moi, j'en ai déjà parlé. T'achètes ça chez Canadian Tire, t'achètes ça chez Walmart, t'achètes ça n'importe où. Alors que ça ressemble à des vraies armes à feu et qu'il y a des jeunes qui utilisent ça pour intimider les autres, pour tirer sur les autres, pour faire des invasions de domicile, pour régler des comptes, pour... Et on laisse faire ça, on laisse vendre ça. À quoi ça sert des guns à plomb? Pouvez-vous me dire, c'est quoi le sport du gun à plomb? Tu vas tirer sur une planche toute ta vie avec un gun à plomb?
Non, mais tu peux. Il y a des écureuils.
Mais à Montréal,
À Montréal, il n'y a pas tant d'utilisation. Mais en campagne, ça peut être utile.
Ben oui.
Non, c'est vrai. Je vous confirme que François Legault va faire le point à 14h. Bon. Cet après-midi, pour parler notamment de cette levée de certaines mesures. On devrait parler de sport, de restaurant.
Non, mais attends,
je vais juste vous confirmer, ça vient d'arriver. Là.
Parce que, imaginez là, s'il n'y avait pas de pandémie présentement, là. C'est ça le sujet. Là. C'est les fusillades, c'est la contrebande des armes à feu, c'est la sécurité publique. C'est ça là, qui devrait être primordial aussi dans l'actualité. Je comprends la pandémie, pis c'est important, mais ça là, on le voit depuis 2 ans à Montréal, au Québec, les armes à feu.
Ah, pis ça a été aggravé en plus avec la pandémie, puis.
Puis je pense que là, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement fédéral prennent la parole. Mais là, ils vont dire, Trudeau, on travaille, on est assis, on se prend les mains, on discute, on veut pas discriminer, donc on va voir ce qu'on va faire. Mm.
On est en train de continuer à travailler.
Ben oui. Exactement. Non, mais en même temps, ça peut être de l'autre côté, puis ça peut être Andrew Scheer, ancien chef du Parti conservateur, qui félicite les camionneurs non vaccinés en disant que Justin Trudeau est la pire menace qu'on a à notre liberté, Mario, là.
Ouais, mais ces camionneurs là sont en train de devenir, je pense plus au Canada anglais qu'au Québec là, mais une espèce de symbole. Si on en juge par les dons qu'ils ont reçus, puis maintenant on sait qui est la dame là qui était derrière ces dons au point où GoFundMe a pris panique puis a gelé l'argent. Mais ils sont en train de devenir une espèce de symbole. Et pour le Parti conservateur, qui a jamais pris une position claire là, sur la vaccination, sur la pandémie, sur la lutte à la pandémie, c'est en train de complètement diviser leurs troupes, complètement diviser le parti, rachever le ce qui restait, les derniers lambeaux de leadership de Renault Tool. Parce que là, on sait sincèrement, on sait plus c'est quoi. Là, est-ce que le Parti conservateur est le parti de la défense des non-vaccinés? En fait, le Parti conservateur semble terrorisé là, par le 5% que Maxime Bernier leur a enlevé. Et la grande priorité semble d'aller rechercher ce 5%-là, quitte à perdre dans le reste de la population, dans ce qu'on pourrait appeler les électeurs plus au centre, quitte à perdre tout le monde.
Benoît?
Oui, tantôt, Philippe-Vincent, tu l'expliquais à LCN, tu sais, les camionneurs veulent rentrer au pays sans être vaccinés, sauf qu'ils peuvent pas aller aux États-Unis sans être vaccinés, je comprends bien.
Exact.
Qu'on voit pour la liberté de quoi, de contaminer les autres. Là, cette gang-là, encore une fois, des prix Nobel, qui représente une minorité des camionneurs, faut le dire aussi. Mm-hmm. Ben, je pense, comme les autres, les camionneurs sont vaccinés en grande majorité.
À 90%.
Ouais, là, il demande des chiffres au gouvernement puis à la santé publique du Canada. Là. Il y a combien de camionneurs qui ont contaminé les ils nous donnent, eux autres, nous donnent pas de chiffres non plus. Eux autres, ils justifient pas leur action démesurée là, de traverser le Canada. Puis c'est, donc c'est le politique de droite là, du Rock, là, de l'Alberta. Il y a quelques entreprises qui disent là, arrêtez, là, on va être en pénurie de marchandises. Déjà que c'est le cas, on le voit sur les tablettes, là, on voit l'effet sur les tablettes. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que c'est encore la main tendue ou le poing fermé? Là, la main tendue, ça n'a pas l'air à marcher. Là. On se fait cracher dans la main plus souvent qu'autrement. Tu fais quoi pour discuter, pour négocier avec ça? Et le représentant de cette gang-là, ce qui devrait être Erin O'Toole, ben, comme dit Mario, on ne sait pas sur quel pied il danse. Fait qu'on ne connaît pas. Là, c'est Andrew Scheer. Andrew Scheer. Celui qui faisait peur aux enfants quand il souriait. C'est lui qui va prendre le contrôle de ce mouvement-là.
Mais dans tous les partis, mettons hier, là, Catherine Dorion là, a fait une montée de lait. Là, je comprends entre les lignes qu'elle veut la réouverture immédiate de tout le secteur. Elle demande des études qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Là, des études scientifiques démontrant que la santé publique a fermé les salles de spectacle, l'effet sur la pandémie et tout ça. T'sais, donc, dans tous les partis, on a de la misère, parce qu'officiellement, tu parles à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est non, faut écouter la santé publique, faut écouter la science, oui, on est d'accord avec les mesures sanitaires, faut avoir de la prévisibilité, mais là, tout à coup, oups, il y a une de ces députés qui sort, puis qui laisse entendre que la santé publique, c'est n'importe quoi, qu'on fait n'importe quoi, qu'on ferme les salles de spectacle qu'on n'aurait jamais dû, elle dit pas comme ça, mais elle laisse entendre en disant, là, en criant une espèce de... Je pense qu'on doit appeler ça un complot, mais que tu sais, ça aurait été décidé à l'aveuglette, puis qu'on n'a pas d'études scientifiques pour tout ça. Donc, c'est quand même un exploit peut-être pour M. Trudeau et M. Legault, là, les deux premiers ministres, d'avoir gardé, dans les deux cas, d'avoir gardé leur monde, d'avoir gardé leurs troupes unies, parce que les députés et tout ça devaient recevoir toutes sortes de pressions, de toutes sortes de mondes fâchés. C'est épouvantable, la gestion de la pandémie. Mais dans les partis d'opposition, on échappe. Là, des députés qui, à un moment donné, partent d'une initiative personnelle le soir, puis sortent complètement. Alors, comme ils gouvernent pas, on voit ça pas si grave, là. Mais je veux dire, c'était des partis gouvernementaux. Si les conservateurs étaient au pouvoir, au Québec solidaire, je veux dire, Catherine Dorion, elle ferait quoi? Elle démissionnerait, elle ouvrirait, si elle était ministre de la Culture, elle ouvrirait les salles de spectacle à l'encontre de la santé publique. Qu'est-ce que ça signifie, là, comme des sorties comme celle-là? On se le demande, là.
Ça signifie la fin du monde, Mario, Philippe-Vincent. C'est la fin du monde. Quand t'es rendu d'avoir une députée de gauche, de la gauche, grosse gauche, qui parle comme une députée de l'extrême droite ou la droite de l'Alberta.
Il y a quand même une différence entre demander la réouverture des salles de spectacle et dire que le premier ministre est le plus liberticide et la plus grande menace à nos libertés.
Non, mais il demande les deux demandent la même affaire. Les deux demandent...
Catherine Dorion dit pas il faut que les salles de spectacle rouvrent pour les non-vaccinés puis que tout le monde puisse y aller de façon générale. Andrew Scheer demande que des gens non-vaccinés puissent aller aux États-Unis, revenir au Canada sans problème, alors que l'autre, elle dit pas genre plus de masque, plus de passeport vaccinal.
Non, mais Catherine Dorion... Là où ils se rejoignent, c'est à laisser entendre... C'est un peu ce que fait toujours Éric Duhaime, là, à laisser entendre que les mesures... C'est du n'importe quoi, là. Tu comprends? Elle dit, c'est fait à l'aveuglette, t'sais. Hier, je parlais de ça avec le docteur de Sage. Il y a souvent des gens qui reprochent que les fermetures de restaurants, de salles, peu importe, tu sais, que c'est non scientifique, on n'a pas d'études. Puis il disait, t'sais, il était formel sur le fait d'écouter la science. Puis c'est même une science, là, je disais, qui remonte, là, avant la grippe espagnole. C'est pas une science compliquée. T'as une pandémie, t'as donc une propagation rapide d'un virus. Il faut que t'évites les lieux de rassemblement. Faut que tu fermes les lieux de rassemblement. On l'avait fait en 1918-19 avec la grippe espagnole. Ouais. On savait ça qu'il fallait fermer les lieux de rassemblement. Alors, il reste que Catherine Dorion conteste une science qui a plus d'un siècle. Évidemment, elle, en se disant scientifique, parce qu'elle a dit qu'on me prouve par des avis scientifiques qu'il fallait fermer les salles de spectacle, mais elle fait une sortie très anti-scientifique, là, une science qui existe depuis plus d'un siècle. Il faut fermer les lieux publics pour éviter les rassemblements.
Alors qu'elle prouve rien, elle. Elle ne prouve rien. Elle prouve pas. Elle arrive pas avec des chiffres scientifiques pour dire voici ce qui serait arrivé si on avait laissé les salles de spectacle ouvertes. Voici le taux de contamination.
Elle
en offre pas plus. Ben oui, mais c'est ce qui est pas sain. Puis la référence de Denis Goulet, là, qui a écrit sur les pandémies, les épidémies, disait exactement ça. Puis je l'ai lu là. En 1918, là, les normes, les mesures sanitaires étaient les mêmes. De pas se rassembler, d'éviter les groupes, c'est pas compliqué. Là. Ça prend pas un prix Nobel de comprendre ça. Mais quand on arrive puis on exige une chose sans proposer une autre en temps de pandémie, c'est un peu boiteux là, comme intervention.
Parlez-moi de cet effort pour aller rejoindre les non-vaccinés de Lionel Carman. Au fond, on fait un peu de ce qu'on a déjà fait, là, les cliniques mobiles. Là, on va envoyer des pliants, puis on va donner une possibilité aux gens d'appeler le gouvernement pour qu'on les convainque que se faire vacciner, c'est bien. Est-ce que ça va fonctionner, vous pensez?
Pour leur dire quoi, là? Les supplier? Moi, j'aimerais ça que l'Agence du revenu ait la même méthode avec nous autres, tu sais. Envoyez donc, payez donc vos impôts. Soyez donc fins, là. Comprenez donc.
Appelez-nous si vous avez des questions sur vos impôts.
Il n'y aura pas de conséquences, là. On ne veut pas de chicane, là, tu sais. Hey, là, on fait quoi après, là? On leur donne 1 000 $ la dose? Un voyage dans le Sud organisé par Kevin Awad? Participation aux tricheurs? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Une statue.
Ben, une statue, c'est ça.
Mario.
Non. Mais, ouais. Non, je comprends, mais il faut essayer quelque chose, là, tu sais, il faut tendre la main. Je suis convaincu que ça va marcher, le résultat sera pas zéro, il va y avoir des résultats, mais le ministre Carman a refusé hier de s'avancer sur un chiffre, là. Il reste 540 000 personnes, puis on comprend que dans les 540 000, là, c'est beaucoup plus difficile, là. T'es dans des groupes où chaque tranche de 5 000 ou chaque tranche de 10 000 devient un exploit, donc est-ce qu'avec cette opération... C'est quoi qu'on vise, là? Est-ce qu'on serait content de 40 000? Est-ce qu'on serait content de 50 000? Est-ce qu'on rêve de 100 000 nouveaux vaccinés? Tu sais, bon, sincèrement, je le sais pas. Mais je suis convaincu qu'on va aller en chercher quelques milliers. Il faut tendre la main. Probablement qu'on se dit que cet effort-là est nécessaire. Je me demande juste... Je sais, là, j'ai entendu tous les argumentaires sur des gens très très en marge de la société, par exemple des immigrants récents qui parlent pas bien ni l'anglais ni le français, donc il y aurait une information insuffisante par rapport au vaccin. Mais je sais pas jusqu'à quel point on exagère ça. Je sais qu'il y a des gens marginalisés, mais quand tu y repenses, écoute, ça fait un an qu'on parle rien que de ça, dans tous les pays, dans toutes les langues, de toutes les manières.
Ça fait 2 ans.
Ouais, non, mais pas de la pandémie, du vaccin, d'un vaccin disponible. Mais Benoît, sincèrement, là, je veux dire, ces gens-là, mettons, dans la dernière année, est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont eu des aliments? Ils ont été capables de les trouver? Ils ont trouvé l'épicerie, les sous, l'unité monétaire du pays, le dollar canadien, ils ont payé. Je veux dire, tu sais, il y a un point, maintenant, pour vivre dans un pays et survivre, il faut que tu saches quelques affaires, puis... Et tu dis « OK, puis le vaccin, non, ça pas du tout
entendu. » Mais j'avais l'impression hier qu'on n'avait pas nécessairement le meilleur portrait de la situation. Tu sais, c'était pas clair encore. Il y en avait combien de ces gens-là, combien d'itinérants, par exemple, combien d'allophones. Là. Donc, j'ai hâte de voir si ces efforts vont fonctionner. Messieurs, bonne journée. On écoute à 2 heures, on s'en reparle demain.
Oui, certainement. Salut.